Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, l'invité d'Escale est Denis Mukwege, récent lauréat du prix international Roi Baudouin pour le développement. Le docteur congolais a été récompensé pour son action en faveur de milliers de femmes victimes de viols et de crimes de guerre en RDC. Détruire les femmes, c'est détruire la vie. La tentation est grande de résumer à un de ses slogans l'action du docteur Mukwege à l'hôpital de Panzi qu'il a fondé à Bukavu. Un hôpital qui offre une prise en charge psychologique, médicale et sociale des victimes des violences sexuelles dans l'est de la RDC. En 10 ans, le docteur Mukwege et son équipe ont soigné plus de 30 000 victimes. Et malgré la présence de la mission des Nations Unies, la MONUSCO, la situation perdure. Ce qui a poussé le médecin congolais à rencontrer récemment à New York le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Une entrevue sur laquelle il revient au micro de Maha Fayek.
Je suis venu voir le secrétaire général des Nations Unies pour spécialement deux préoccupations. La première préoccupation, c'est la préoccupation et sécuritaire des femmes à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le problème des viols, c'est plus un problème humanitaire, c'est plus un problème social, c'est devenu un problème de sécurité. Et lorsqu'il devient un problème de sécurité, vous savez, nous avons la force de l'ONU la plus importante actuellement qui est stationnée à l'est de la République démocratique du Congo. Mais apparemment, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, que nous louons de la part de la MONUSCO. Mais il reste des gaps, et malheureusement ces gaps, ce sont les femmes qui payent. Et c'est surtout des gaps sur le plan sécuritaire. Et je voulais bien partager ma vie avec le secrétaire général des Nations Unies, et je lui ai fait part de mes préoccupations.
Avec une MONUSCO qui va encore continuer de faire du travail de terrain, qui vient dont le mandat vient d'être prolongé, que demandez-vous concrètement à cette MONUSCO? Que peut-elle faire plus concrètement sur des terrains périlleux comme Goma, Bukavu, l'est de la RDC tout court?
Je pense que c'est une lutte qui ne doit pas se faire seulement au niveau de la MONUSCO. Je crois qu'il y a un besoin, en fait, de faire participer toutes les forces en présence. Il y a la MONUSCO qui peut soutenir l'effort, mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons beaucoup plus réfléchir sur une stratégie qui implique en fait la population, par exemple locale, dans la lutte contre ces phénomènes. Nous devons réfléchir sur la stratégie qui engage toutes les forces en présence pour dire, écoutez, on peut bâtir cette force autour de la MONUSCO, mais ça ne doit pas être une exclusivité de la MONUSCO. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça pose quand même problème. Il n'y a pas suffisamment de coordination entre les forces de la MONUSCO et les forces locales qui peuvent aider à endiguer ces mal. Si je peux expliquer un peu plus, je crois qu'on ne pourra jamais avoir un soldat derrière chaque femme congolaise pour la protéger. Ça, c'est pratiquement impossible. On ne peut pas demander à la MONUSCO ça. Par contre, je crois que s'il y a une bonne collaboration entre les soldats de la MONUSCO et la population, il y a lieu de jouer un rôle préventif, puisque la population peut avoir son interprétation des faits. Et que si cette interprétation est bien partagée avec les responsables de la MONUSCO, l'action préventive peut se faire avant que les pires arrivent. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons des troupes qui ne parlent aucune langue locale, par exemple. Même s'ils peuvent avoir de temps en temps un interprète, mais l'interprète n'est pas avec eux toute la nuit, 24 sur 24. Et peut-être il peut interpréter aux responsables. Donc je crois que côté stratégique, il faut faire quelque chose.
Plus de recrutement, par exemple, de personnel local entraîné, professionnel, de la lutte contre la violence sexuelle faite aux femmes, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan de santé, plus de recrutement de ce genre de personnel par les Nations Unies?
Je ne pense pas que ce soit forcément un recrutement des Nations Unies, ça c'est trop compliqué. Mais je pense que dans le rôle, dans le mandat de la protection, il faut développer des stratégies. Et ces stratégies doivent tenir compte des quelles sont les forces en place, quels sont les moyens qu'on peut mobiliser pour rendre notre action effective. Moi, je ne crois pas à une action exclusive de la MONUSCO. Je pense qu'il faut une action plutôt inclusive où tout le monde va se sentir concerné, où tout le monde va agir pour lutter contre ces phénomènes.
Alors vous, homme de terrain, est-ce que vous avez soumis un plan d'action à Ban Ki-moon ?
Je n'ai pas mandat.
Vous pouvez toujours faire des propositions, vous êtes citoyen du monde.
Non, je n'ai pas mandat, mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a une inquiétude. La MONUSCO ne sera pas éternelle au Congo. C'est une évidence et il faut l'accepter. Mais quel est le plan de relève ? Moi, je trouve que lorsqu'on a fait ce qu'on a appelé mixage, donc on a mis les groupes armés ensemble, il y a des choses qui ont été complètement oubliées. Et j'aime bien dire, c'est comme si on a essayé de construire la paix en sacrifiant la justice. Et aujourd'hui, on n'a ni paix ni justice. Comment ? Vous créez une armée. Mais c'est une armée qui a été constituée par des enfants, soldats, à qui on donnait une arme et on disait avec cette arme, vous avez la nourriture, vous avez les femmes, vous avez l'argent, vous avez tout ce que vous voulez. Ils ont toujours vécu comme ça. Pour eux, c'est la violence, c'est la haine, c'est la destruction. C'est ça la culture qu'ils ont eue pendant 10 ans. 10 ans après, ils ont 20 ans, ils sont adultes. Vous les approchez dans l'armée, vous dites, bon, mais maintenant vous devenez soldat de l'armée nationale, il faut protéger la population. Madame, vous ne pensez pas qu'il y a une contradiction dans ça ? Quelqu'un qui, hier, a violé, a tué, et il a pensé qu'il était tout à fait autorisé de le faire, vous lui demandez le lendemain de protéger la même personne qu'il était en train de violer hier. Je crois, sans qu'il y ait une forme de détraumatisation, ces gens n'ont pas changé. Et donc, je crois qu'il faut que le programme de réforme du secteur sécuritaire soit vraiment une réforme profonde. C'est seulement cette réforme qui peut faire la relève de la MONUSCO.
Et le passage de criminel à homme de vertu est tellement difficile. Est-ce que vous voulez aussi du sang neuf dans l'armée ?
Moi, je pense que si c'est moi qui avais à le faire, je crois que actuellement, les gens qui ont été détruits pendant 10 ans, peut-être que ça va nous demander 20 ans pour les détraumatiser. Et pendant les 20 ans, qu'est-ce que nous faisons ?
Donc vous les réintégrer socialement ailleurs et vous mettez du sang neuf dans l'armée ?
Moi, je crois que ça serait la mesure. Si moi, j'avais à le faire, je pense que ces jeunes gens, je les mettrais, je les casernerais, je les donnerais un autre profil professionnel, même s'ils gardent leur statut militaire, mais ils ont un autre profil et je prends du sang neuf où je peux créer quelque chose qui va aller plus vite et plus efficace.
Alors, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de vous, puisque votre expérience peut profiter aux Nations Unies ou générer des idées. Vous, à votre niveau modeste, vous battez depuis une dizaine d'années. Vous avez créé un hôpital qui s'occupe essentiellement des victimes de violences sexuelles et de l'assistance psychologique à ces victimes depuis 1999. Vous travaillez depuis un peu plus de 10 ans en étroite coordination avec votre équipe, avec les victimes de violences sexuelles. Vous avez jusqu'à présent pris en charge à peu près 30 000 femmes. Comment vous avez fait ?
Je crois que c'est un travail qu'on fait par la force des choses. Vous êtes à l'hôpital, vous voyez les victimes arriver dans un état où elles ont besoin d'une prise en charge. Je crois que l'équipe avec laquelle je travaille, une équipe formidable à laquelle je rends hommage, puisque sans cet esprit d'équipe, on ne saurait pas faire ce qu'on fait. Je peux vous dire que presque la moitié de mon personnel aujourd'hui a besoin d'une thérapie. Puisque c'est tellement lourd à porter, c'est tellement difficile à porter. Je crois que je suis très, très reconnaissant par rapport à cette équipe, puisque je crois qu'ils font un travail formidable. Mais on le fait par la force des choses.
Alors, vous avez mis votre vie à risque pour faire ce plaidoyer. Dites-moi comment vous faites. Comment vous faites pour les récupérer, pour les faire parler, pour prendre en charge leur famille, pour qu'elles ne soient pas rejetées par leurs époux, par leur village, par leur communauté? Comment vous faites tout ça?
En fait, notre travail porte sur 4 volets. Le premier volet, c'est le volet psychosocial qui est le volet le plus important, je dois dire, puisque, en fait, lorsque les victimes nous arrivent, ce sont des femmes qui sont traumatisées. Vous imaginez l'état dans lequel elles se trouvent lorsqu'elles viennent à l'hôpital. Souvent, elles sont incontinentes, elles ont des blessures, elles ont passé des mois, voire des années dans la forêt à être utilisées comme esclaves sexuels, etc. Donc, lorsqu'elles arrivent, elles sont souvent seules, peut-être abandonnées par la famille, et elle ne voit aucune issue. Et la première chose que nous faisons, nous les prenons en charge sur le plan psychologique. Ça, c'est vraiment le challenge. Lorsque psychologiquement, elle s'est portée mieux, nous procédons à des interventions chirurgicales, lorsque c'est nécessaire, ou au traitement en fait, médical, si c'est ça qu'il faut. Et là, nous avons une équipe de chirurgiens, de médecins qui s'occupent de ces volets. Mais ce que nous avons constaté, c'est que dans le processus de la guérison, lorsque les femmes se sentent mieux, vous leur dites de partir à la maison, souvent leur village a été brûlé, et souvent elles ont été rejetées par toute la communauté, rejetées par le mari. Et la question qui vient, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Je n'ai pas à manger, je n'ai pas ceci pour les enfants. Donc nous avons un programme de prise en charge socio-économique assez bien structuré pour permettre à ce que la femme, sortie de l'hôpital, soit capable de prendre sa vie en charge et qu'elle puisse s'autosuffire, si je dois dire ainsi. Et cette autonomie la rend moins vulnérable. Le dernier volet, c'est que lorsque économiquement elle se porte bien, ce que nous avons observé, elle revient pour dire « mais j'ai droit à la justice ». Et donc, la justice apparaît comme donc, la dernière étape du processus de guérison. Et lorsque nous avons l'impression qu'elle demande la justice, nous nous disons « ça y est ». Elle commence à prendre confiance en elle-même et comme ça, c'est très facile de la réinsérer dans sa communauté. Et souvent dans la communauté, elles deviennent vraiment des actrices très très importantes pour lutter contre le phénomène.
Finir un peu sur cette notion de soutien de la communauté internationale, que ce soit le soutien du secrétaire général des Nations Unies ou du roi de la Belgique. Vous avez eu cette idée un peu originale de leur demander, que ce soit à l'un ou à l'autre, de vous accompagner une semaine sur le terrain pour voir de plus près ce qui se passe et être eux aussi au-delà des grandes stratégies capables de générer des idées concrètes.
La première fois que j'ai rencontré le secrétaire général, son Excellence Monsieur Ban Ki-moon, je lui avais demandé de visiter le terrain et il est venu et il a visité l'hôpital au Congo, Il Africa.
Quelques heures?
Quelques heures, bien sûr, mais je pense que ce sont des heures suffisantes. Parfois, on n'a pas besoin de voir toutes les atrocités pour comprendre quand même que c'est grave. Et je pense que depuis ces temps, j'ai le sentiment que c'est une question qu'il porte à cœur et qu'il y travaille très profondément. C'est après ça, par exemple, qu'on a l'envoyé spécial du secrétaire général, Madame Margot Wallström. Elle fait un travail formidable. Elle est en contact avec nous régulièrement sur la question. Donc je crois qu'il y a des liens très très forts qui sont en train de se créer pour pouvoir endiguer ces mal. Avec le roi Albert II de la Belgique, après la réception du prix, ce souverain m'a beaucoup marqué, puisque lui personnellement, comme humain, il voulait faire quelque chose et il a trouvé la voie. C'était par exemple écrire au secrétaire général Ban Ki-moon une lettre lui demandant de pouvoir faire quelque chose. Je crois que c'est formidable et je pense que si tous les hommes de bonne volonté, comme le roi Albert II de la Belgique, comme l'engagement que je viens de vous dire du secrétaire général, si on mobilisait nos forces, je crois que ce problème peut assez rapidement trouver une solution et les victimes se rendront compte quand même qu'on s'occupe d'elles.
Et c'est avec le docteur Mukwege qui répondait à Mafayek que se referme ce magazine Escale. Escale, magazine consacré cette semaine à l'action que le gynécologue congolais Denis Mukwege mène dans la région de Bukavu en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. Un magazine présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la collaboration de Ma Fayek, de Florence Westgaard et de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.